Alors, je vais un tout petit peu détailler le dispositif des ateliers qui ont eu lieu. Donc, pour reprendre ce que disait Miela, donc face effectivement à la situation cataclysmique, on pourrait dire, qui s'est installée dans la bande de Gaza puis en Cisjordanie et qui continue, nous avons effectivement ressenti la nécessité d'organiser donc ces ateliers de réflexion qui ont commencé en janvier 2024, donc quelques mois à peine après l'attaque du 7 octobre, et qui s'est conclue il y a 2-3 mois, donc un certain nombre d'ateliers qui nous permettaient effectivement de mettre en commun nos expériences cliniques, tenter d'élaborer les éléments de réel qui ont envahi l'espace de la cure, côté patient mais côté thérapeute aussi. Et surtout d'essayer de saisir, enfin surtout non, mais aussi d'essayer de saisir la résonance particulière de ce génocide au sud de la Méditerranée. Donc des nécessités à la fois politiques et éthiques ont soutenu notre démarche. Sortir de notre sidération, mettre à distance ce que nos passions éventuelles pouvaient avoir d'aliénant. Et on sait, en tant qu'analyste averti, que si on n'y prend pas garde, l'emprise des images, des discours politiques, des propagandes peuvent entamer l'espace thérapeutique et amener le psychanalyste à ne plus être à l'écoute du patient et à céder à ses propres mouvements psychiques, ce qui peut compromettre la cure. Alors, les éléments de cure dont nous avons eu à parler émanent de patients pour la plupart tunisiens, musulmans ou juifs, vivant en Tunisie ou à l'étranger, principalement en France et aux États-Unis. Parmi les analystes, il y a eu donc des analystes membres de l'AFPEC, donc d'une clinique tunisienne, et il y a eu aussi un psychanalyste juif tunisien qui reçoit des patients maghrébins en Tunisie et en France, qui a participé à l'un de nos ateliers. Voilà un peu pour le dispositif. Alors, côté patient, des changements profonds dans la manière de se penser ont émergé. Une profonde recomposition des coordonnées identitaires. Des questions nouvelles sont apparues, tant dans leur dimension politique et éthique, que par leur écho subjectif en lien avec l'infantile. Côté analyste, la position de neutralité bienveillante à laquelle le thérapeute est censé occuper et l'écoute prioritaire de l'inconscient infantile du patient ont été parfois mises à mal. La relation patient-analyste pouvait se colorer d'une sorte de connivence face au trauma. L'impact de la réalité externe a nécessité parfois des aménagements du cadre, comme par exemple celui de repasser en face à face, comme si la position asymétrique du divan pouvait apparaître comme hors sujet dans certaines séances. Et au contraire, lorsque analystes et patients se sont trouvés dans une position opposée face au génocide en cours, les rapports transférentiels ont été parfois altérés, voire rompus. Alors, je voudrais dire un peu énumérer presque les affects qui ont émergé durant ces ateliers. Alors, tout d'abord, les images d'enfants palestiniens, enfants errant dans les rues, cherchant dans les décombres leurs parents ou tentant de ramasser par terre quelques poignées de farine, ont fait émerger des angoisses archaïques, réactualisant des sentiments de détresse et d'abandon qui n'étaient jusque-là que peu élaborés dans certaines cures. D'autres patients ont confié leur difficulté à profiter de la vie sans ressentir une culpabilité chevillée au corps. Parler des soucis de la vie quotidienne semble dérisoire, voire obscène, comme si la seule souffrance qui avait droit de citer était celle des Palestiniens. Un patient disait que lorsqu'il prenait du bon temps, il vivait cela comme quelqu'un qui souffre d'un cancer en phase terminale et qu'entre-temps, il essaye de se divertir pour oublier. D'autres ont exprimé leur affliction par le désir de voir le monde s'anéantir, pourvu que cesse la souffrance des Palestiniens, que meurent les bourreaux et leurs complices. Pour d'autres encore, l'abandon à leur sort des Palestiniens privés de leurs besoins les plus élémentaires a entraîné confusion mentale et bouffée délirante, en trouvant écho dans une histoire subjective traumatique, poussant certains, notamment en période adolescente, à emprunter la voie du délire maniaque de toute puissance, en miroir de celui d'Israël. Délire sur une origine cananéenne ou juive, écoute de voix enjoignant l'individu à éliminer Netanyahou ou autre président jugé responsable. Enfin, certains ont plutôt ressenti de la honte relative à leur insupportable impuissance face à la tragédie palestinienne, honte doublée par la jouissance d'un voyeurisme qui ne peut se détacher de l'obscène. Alors, ça a été une conférence qui a été donnée il y a la journée précédente par Ayman Dabousi. Cette conférence sur la question de la honte et des multifacettes de la honte sera sur le site internet bientôt. Alors, des signifiants ont circulé de manière insistante. L'Qahra, mais pas n'importe laquelle. Celle qui mène à l'yas, à la désespérance, à la certitude qu'il n'y a pas d'autre secourable. La suffocation, al-khanqa, traduit le fait qu'il n'existe plus de lieu où pouvoir être, une opacité qui empêche de voir l'horizon. Le rapport à la dictature dans ce qu'elle convoque comme dynamique de domination, d'oppression et d'arbitraire est aussi remis au travail. Les multiples maltraitances sociales infligées par les régimes des pays arabes, l'impossibilité de voyager dans le monde qui leur est fermé, le monde définitivement hostile ont engendré chez les jeunes Tunisiens des éprouvés parfois physiques de suffocation. Avec Gaza, le monde devient un ensemble écrasant et mortel qui mène à ce sentiment de khanqa. Alors, consommation massive de stupéfiants, immigration clandestine sur des embarcations de fortune ont été pour les jeunes des moyens d'échapper à cette agonie. Souvent, on le sait, au prix de leur vie. À leur vie perçue, du coup, comme inutile. Et effectivement, le sentiment d'une existence futile, hayet tefha, de ne pas se sentir réel, avec des accents mélancoliques tels que l'apathie, la fatigue psychique, le repli sur soi ou la fuite dans des réalités virtuelles, consommation de stupéfiants, invention presque d'une fausse vie, qui s'attarde sur des faits divers, ineptes, parce que, comme dirait Winnicott, rien au centre. La guerre contre les Palestiniens a changé de manière significative le rapport que porte la jeunesse tunisienne sur le monde occidental. Autre champ. Alors, l'alignement inconditionnel de la majorité des puissances occidentales, autrefois puissances coloniales, sur la politique d'Israël, les discours islamophobes qui confinent à la haine du musulman ont amené les uns et les autres à se poser des questions identitaires, à reconsidérer le rapport à soi et à l'autre. Alors, on le sait, les principes d'égalité, de liberté d'expression, de démocratie, de respect des droits humains, fondements d'un Occident autrefois idéalisé, ont perdu de leur crédibilité. Il est devenu clair que l'Occident impose sa propre histoire. Cette nouvelle donnée laisse la jeunesse orpheline d'un des noms de leur idéal du moi. Le désir d'Occident est réinterrogé. Un jeune patient, militant durant la révolution tunisienne, discutait avec un ami français de la Tunisie qui perdait du terrain en termes de liberté d'expression. Le jeune Tunisien lui répondit très sérieusement que sa préoccupation ne concernait pas la Tunisie, mais l'Europe. Car si là, la prise de parole est criminalisée, alors comment lutter contre les régimes de nos pays? Vers qui se tourner si l'Europe fait défaut? La migration, aujourd'hui, est associée à une perte de liberté d'expression, puisque la société qui accueille se présente d'emblée comme hostile. Certaines personnes sur le point de partir ont annulé leur départ. D'autres qui vivent à l'étranger ont pensé soit rentrer en Tunisie, soit quitter la France ou l'Allemagne pour un pays jugé moins raciste vis-à-vis des Arabes. En tout cas, les jeunes Tunisiens ont la conviction aujourd'hui qu'en Europe, ils seront toujours des citoyens de seconde catégorie, réduits à leur identité d'Arabe avec des droits restreints. Ils savent, par exemple, que toute parole de solidarité envers les Palestiniens est sinon criminalisée, interdite, malvenue. Ainsi, la migration vers l'Europe est aujourd'hui appréhendée froidement. Les bénéfices sont pensés en termes économiques ou en termes de liberté de mouvement, acquérir la nationalité en Europe pour soi et sa filiation. Pour d'autres, il s'agit d'échapper à un ordre moral répressif, comme lorsque on vit une sexualité non hétéronormée. Il en est ressorti que l'immigration n'est plus un désir d'être assimilé. Au contraire, on ne veut plus rejeter son identité d'arabe. Réussir sa migration, c'est maintenant affirmer sa culture, non par simple réaction, mais par la conviction selon laquelle l'assimilation réussie est un leurre, qu'il n'y aura jamais de reconnaissance et d'égalité possible entre Français issus de migration et Français de souche, entre guillemets. Autre élément de ces ateliers, c'est que la résistance exemplaire des Palestiniens a opéré une césure dans ce qui fait l'arabité, l'identité et la double culture. La stigmatisation systématique de l'arabe en France et en Europe, dont le discours dominant l'essentialise comme islamiste ou terroriste, a amené la jeunesse à se réapproprier son arabité, sa culture, ses traditions. De la honte d'être arabe qui s'accompagnait du désir d'assimilation, ou autrement dit d'effacement des signes de son arabité, se transforme aujourd'hui en son contraire. On assume, on s'approprie. Tout un mouvement d'artistes arabes, comme parmi lesquels Saint Levant, par exemple, ou très récemment, même si ce n'est pas en France, Zohran Mamdani, porte l'image que, pour paraphraser « Black is beautiful, Arab is beautiful ». À Londres, par exemple, des boîtes de nuit organisent des soirées avec de la musique arabe et des DJ issus de la diaspora arabophone, soirée extrêmement prisée et cool. Le Palestinien a apporté soutien à un narcissisme en manque de support. La culture revient au devant de la scène et la tradition. Le henna, le harkous sont réinvestis par les jeunes. Ils réapprennent la langue arabe, ils relisent les classiques. Ils se tournent de plus en plus vers le cinéma et les séries de la plateforme Shahid, qui diffuse les films des pays arabes. Ils refusent d'absorber la propagande américaine dans laquelle le terroriste est arabe, la femme est toujours voilée et le GI américain sauve le monde contre les sauvages musulmans. Donc il y a une nouvelle conscience critique des discours néocoloniaux, orientalistes, une nouvelle conscience qui voit le jour. L'idée selon laquelle être un bon arabe revient à épouser la culture occidentale est maintenant... il y a toujours une idée d'asymétrie, la conviction. Et participer au dénigrement de sa propre culture n'est plus acceptable. Désormais, il devient possible de penser sa culture en dehors des référents culturels occidentaux. Et cela a été précipité par la défaite, on pourrait dire, de la pensée universaliste, ou comme dirait Edward Said, l'universalisme est un occidentalisme. Alors, la question coloniale se réactualise alors qu'elle semblait réglée depuis longtemps. L'écoute acquiert une perspective nouvelle, celle de l'écoute de l'inconscient colonisé. La violence coloniale contre la population de Raza a fait émerger chez les jeunes patients une nouvelle problématique qui n'était pas souvent entendue dans les cures. Le clivage structurel entre le bain culturel et social dans lequel les gens du Sud vivent et leur regard toujours tourné vers le Nord, un Nord rejetant et stigmatisant. Le résultat est qu'ils se projettent dans un monde déconnecté de leur réalité, de leur quotidien. Alors les séries américaines, les réseaux sociaux exacerbent cet écart. Ils parlent à la maison une langue qui n'est pas celle de leurs échanges sociaux, professionnels ou virtuels. Cette torsion permanente entre un corps vissé dans un lieu et un imaginaire tourné vers un ailleurs est un éprouvé que nous sommes nombreux à partager. Les jeunes disent ressentir beaucoup plus qu'autrefois une gêne qui confine au sentiment d'humiliation, celle de savoir tout sur l'autre, européen, quand l'autre ne sait rien de nous. Quand je parle en français aujourd'hui en séance, cela me donne du dégoût, disait un patient. Comme si la langue portait en elle la violence coloniale, la langue de la domination, et que ce dégoût était le symptôme de l'autodénigrement, du racisme intériorisé. Le signe de la présence encore vive de la jouissance coloniale qui se maintient comme violence par l'imposition et l'intériorisation de la langue étrangère. Et du coup, certains patients ont retrouvé ou découvert la poésie arabe, la richesse de la langue parlée, son équivocité dans sa sonorité, sa mélodie même. Un patient algérien immigré en France de deuxième génération a pu dire que parler beurre revient à s'approprier la langue de la colonisation avec ses propres coordonnées, la tordre, comme lui faire du mal, par l'accent, et introduire de l'arabe, la rendre impure en quelque sorte, une manière de renverser des siècles de domination et soumettre la langue coloniale à la langue du colonisé. Alors, autre élément qui sont apparus, que j'appelais les héros palestiniens au service du narcissisme. Les jeunes sont peu enclins à définir le Hamas comme organisation terroriste. Au contraire, il est support d'identification aux héros musulmans, entre guillemets, qui par ailleurs manquent cruellement. Ils réparent en leur nom la blessure narcissique de leurs insuffisances et de leur vie hors du monde. Les victoires, entre guillemets, de guerre contre Israël sont réalisées au nom de cet honneur arabe. La résistance d'État palestinien fait tenir. Elle est un des rares soutiens narcissiques à l'identité. Le docteur Hassan Abou Setta, dont on va voir le documentaire cet après-midi, ou Yahya Sinwar, sont pour les jeunes de véritables héros, sources d'inspiration. L'image marquante de Sinwar assis chez lui qui lance un bâton sur le drone israélien dans un geste de défiance est restée gravée dans la mémoire des patients, tout comme le retour du dernier jour de Saddam Hussein quand il a été pendu. C'est une image qui revient. Effectivement, la première et deuxième guerre du Golfe sont réinterrogées. On repense la colonisation française, on relit une histoire du monde arabe à travers le prisme du génocide. Et du coup, le sentiment que le monde arabe est un monde battu a pu parfois, paradoxalement, reculer. La honte a changé de camp. Pour une fois, le monde arabe est du bon côté de l'histoire, par identification aux Palestiniens, bien sûr. Si en 2011, la Tunisie a été pour l'ensemble du monde... Alors, aussi, autre champ important, c'est le lien entre la révolution de 2011 en Tunisie et la question de la résistance à l'oppression. Si en 2011, la Tunisie a été pour l'ensemble du monde arabe un pays porteur de valeurs de justice et de dignité humaine, c'est désormais Raza qui représente le signifiant universel de la résistance contre la domination. L'image du Palestinien assis nu face à un soldat surarmé a été en ce sens éloquente. Certains patients ont fait le lien entre résistance des Palestiniens et résistance à la dictature et révolution, notamment à travers l'image du soldat américain devant l'ambassade américaine qui s'est immolé, qui n'était pas sans nous rappeler l'immolation de Bouazizi. Ces points d'identification entre dictature et occupation se sont renforcés avec le départ de Tunisie de la caravane terrestre et de la flottille. Les mouvements populaires de soutien à la flottille avaient clairement un air de révolution tunisienne. Des élans de solidarité ont repris spontanément et avec le même enthousiasme que nous avons pu connaître durant la décennie 2011-2021. Les Tunisiens ont accueilli les différentes flottilles et caravanes avec une sorte de mouvement citoyen, le même qui a eu lieu pendant la révolution. Un souffle de fierté a parcouru le cœur des Tunisiens et à nouveau, nous avons eu la sensation de faire partie d'un collectif pour une même cause. En quelque sorte, l'affaire palestinienne est devenue une affaire tunisienne. Aujourd'hui, la solidarité des Tunisiens avec les Palestiniens ne semble plus articulée à une quelconque propagande utilisée par les dictatures pour détourner les peuples des revendications de liberté et de justice, ni au nom de la religion, mais au nom de l'anticolonialisme et de la résistance à l'oppresseur. Elle se situe dans la continuité sous-jacente du mouvement de la Révolution de 2011. Une jeunesse qui a baigné dans le refus de l'autoritarisme et de l'abus. Raza est venue réactualiser ce mouvement psychique de désaliénation et de refus de se laisser déterminer par l'autre. La tragédie palestinienne a été donc un accélérateur de conscience politique. Une jeune patiente disait qu'autrefois, lorsqu'elle faisait du shopping dans les magasins sous enseigne européenne, elle ne se posait pas la question de savoir si cette marque soutenait la politique d'occupation d'Israël, si les produits étaient fabriqués par les enfants ouïghours ou si cela nuisait à l'environnement. Aujourd'hui, elle ne peut plus occulter ces questions. Cette intersectionnalité de la conscience citoyenne a été accélérée par le sort des Palestiniens. Les jeunes questionnent le capitalisme, sont interpellés par les nouvelles formes de colonisation culturelle et économique. Ils sont attentifs aux pays qui fournissent des armes à Israël. C'est ce qui ressort de la parole des patients que nous accueillons en analyse, une extension de la pensée politique. Alors, je voudrais terminer par une jeune patiente juive tunisienne. Ça a été important pour moi de terminer là-dessus parce que je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose d'une sorte de binarité qui peut être sous-jacente. Alors, une patiente qui est née en Tunisie de mère juive et de père ashkénaze, juive tunisienne, pardon, et de père ashkénaze, a vécu toute sa vie durant en France. Elle a fait partie des mouvements de jeunesse sioniste, mouvement qu'il avait soutenu face à l'antisémitisme dont elle a été victime en France, couplé au mépris de sa classe sociale ouvrière. Elle a grandi au sein d'une famille qui déconsidérait la part arabe de sa mère et glorifiait la famille paternelle, notamment le grand-père qui avait connu les camps. Prise dans ce système de caste, cette jeune femme participait au dénigrement des origines maternelles tunisiennes. Par honte, sa mère se présentait d'ailleurs toujours comme italienne dans une société française raciste et eurocentrée. Cette jeune patiente a environ 30 ans. Ce racisme qui sévit entre les Juifs eux-mêmes n'a pas permis à cette patiente d'embrasser ne serait-ce que symboliquement ou de s'identifier aux aires culturelles et géographiques auxquelles la lignée maternelle a appartenu pendant des siècles. Pourtant, dit-elle en séance, tout en moi était arabe. La nourriture que ma mère cuisinait, les symboles qu'elle affectionnait, les superstitions, l'accent quand je parlais français, la peau, les mots arabes que j'employais. Le hasard, que je mets entre guillemets, a fait qu'elle vint en Tunisie pour un travail qui devait durer quelques mois. Elle y restera 7 ans. Elle rencontre un jeune Tunisien, musulman, tombe enceinte et avorte. Il ne lui était pas concevable d'envisager un enfant d'un père non-juif. Commence alors une très grave dépression qui l'amène en analyse. Lorsque le 7 octobre se produit, elle eut très peur pour sa famille en Israël. Puis, au fur et à mesure que les exactions contre les Palestiniens augmentaient, elle se rendit compte de l'écart qu'il y avait en elle entre ce qu'elle vivait en Tunisie et les discours de sa famille en Israël, discours de propagande de haine du Palestinien et de l'Arabe en général. Pour elle, il était clair, par exemple, que les politiques et médias français qui relayaient pour la plupart la propagande israélienne, on le sait, recouvrait un antisémitisme structurel qu'elle avait connu dans sa chair et dans sa jeunesse en France. Exposée au discours de haine et de mépris des Palestiniens tenus dans sa propre famille et face à la réponse génocidaire du gouvernement israélien, elle n'a pu s'empêcher de faire le lien avec le conflit permanent et violent auquel elle avait été témoin au sein du couple parental, une mère méprisée, un père tout-puissant, violent et glorifié. Elle comprit alors ce que représentait pour elle d'être tombée enceinte d'un Tunisien musulman et d'avorter. Un passage à l'acte qui tentait au prix d'un meurtre symbolique de faire tenir un point d'impossible, à savoir deux identités intériorisées, a priori inconciliables. L'avortement en est la douloureuse preuve de l'échec. L'analyse de cette jeune patiente lui a permis d'entrevoir combien ses identifications inconscientes, ses racines, son intime, héritées de par sa filiation, étaient tapies au fond d'elle-même. Tu, tabou, pour embrasser le discours sioniste, une véritable idéologie d'enrôlement qui arrache le sujet à lui-même. Un long et courageux travail de désidentification et de réidentification a été mené par cette jeune femme pour pouvoir faire un retour sur soi, selon sa formule, rejoindre la part de soi contre l'histoire et sa violence imposée. Voilà, je vous remercie.